RFI des 23h en temps universel, 7h du matin à Pékin et minuit ici à Paris. Et c'est le journal de Grégoire Morelli. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et à tous. Forte pluie, inondation et boue torrentielle. Un mois après le passage du cyclone Chido, Mayotte, cette fois, fait face à la tempête tropicale Dikeledi. Notre correspondante sur l'archipel s'est rendue à Simkoura, un village du sud où la rivière est sortie de son lit. Assure également la libération de Naïd Taravi, la militante des droits des femmes germano-iranienne, est sortie des geôles du régime iranien pour être rapatriée à Berlin où elle a atterri hier. Gazprom va supprimer près de 40% des postes au sein de son siège de Saint-Pétersbourg. Cela correspond à plusieurs milliers d'emplois. Le géant gazier russe qui fait face à la réduction de son marché européen depuis le début de la guerre en Ukraine. Enfin, le monde de la photographie pleure l'un de ses plus grands représentants, l'italien Oliviero Toscani. Longtemps lié à la marque Benetton, est mort à l'âge de 82 ans. Son portrait en fin de journal. Mayotte évaluait ce matin les dégâts causés après le passage de la tempête tropicale Dikeledi. Elle s'est abattue sur le territoire un mois à peine après le cyclone Chido qui a dévasté le 101e département français. Inondations, boue torrentielle, le sud de Grande-Terre a été particulièrement touché. La zone avait pourtant été relativement épargnée par Chido. Les habitants, eux, s'activaient pour déblayer les maisons. Lisa Morisseau est la correspondante de RFI à Mayotte. Elle s'est rendue à Simkoura, un village du sud de l'archipel où, je vous le disais, la rivière est sortie de son lit.
Au premier étage de sa maison, pendant la tempête, Raïs s'est senti pour la première fois en danger chez lui avec son fils. La rivière au contrebas est sortie de son lit pour gagner plus d'un mètre de hauteur en à peine une heure.
J'ai jamais eu peur de ma vie comme hier. La rivière était vraiment forte. Et ça menait toutes les choses qui venaient de là-haut, là, de grands arbres, de rechaussées, là. Après l'eau rentrée. Je me suis dit que la maison va tomber.
Dans le village de Simkoura, les inondations sont courantes. Elles ont généralement lieu à chaque saison des pluies. Mais cette fois, elles ont été beaucoup plus fortes. En cause, les végétaux balayés par le cyclone Chido qui ont obstrué le passage de l'eau, entraînant des débordements. Dimanche, malgré l'alerte rouge qui imposait le confinement, des riverains comme Moussa sont venus aider à déblayer.
Et parfois, on était obligé de sortir malgré l'alerte rouge pour essayer d'aider ou d'enlever des obstacles qui entravaient l'eau.
Pour l'instant, le bilan humain ne fait aucune victime, mais un mois après le cyclone Chido qui a détruit une grande partie du territoire, c'est un nouveau coup dur pour la population. Moussa.
Il y a un acharnement, j'ai envie de dire, et enchaîner tout ça en si peu de temps, c'est quand même compliqué. On a besoin de bouffer d'oxygène.
L'alerte rouge a été levée à 15h ce lundi, heure locale, mais Mayotte reste en vigilance orange. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a lui fait face ce lundi aux nombreuses critiques des oppositions concernant le projet de loi d'urgence sur Mayotte. Il s'agit par ailleurs du premier texte proposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement Bayrou. Un texte qui vise à accélérer les règles et les procédures pour la reconstruction de l'archipel français, autorisant entre autres l'État à déroger pendant 2 ans aux règles d'urbanisme pour faciliter entre autres l'expropriation. Le Rassemblement national a dénoncé un texte qui passe à côté de son sujet puisqu'il n'aborde pas la question migratoire. Le Parti à la Flamme qui a obtenu ce lundi la présidence du groupe d'amitié France-Maroc, une fonction symbolique puis qui aux yeux du Rassemblement national est considéré comme un signal fort. L'entourage de Marine Le Pen, chef de file des députés RN, ayant expliqué que le Maroc était un acteur important dans la lutte contre l'immigration. Le RN aurait aussi obtenu la présidence du groupe d'amitié France-Italie et de celle du Royaume-Uni. Ces décisions doivent être entérinées la semaine prochaine. Après la journaliste italienne Cecilia Sala, c'est la germano-iranienne Naïd Taravi qui est sortie des geôles iraniennes pour être rapatriée à Berlin. Elle y a atterri hier. Cela faisait 4 ans que cette militante des droits des femmes était détenue dans la prison des Vins pour propagande contre le régime. Depuis la capitale allemande, la correspondance de Pascal Thibault.
Naïd Taravi est arrivée dimanche à l'aéroport de Cologne-Bonne. Sa fille, Mariam Claren, qui se bat depuis plusieurs années pour la libération de sa mère, l'a accueillie. Elle a posté une photo sur le net avec les deux femmes et a commenté « Après plus de 4 ans comme prisonnière politique en Iran, ma mère a été libérée et est de retour en Allemagne. » Naïd Taravi, une architecte de 70 ans, est une militante des droits de l'homme installée depuis longtemps en Allemagne. Comme d'autres binationaux, elle a été arrêtée lors d'une visite dans son pays d'origine en octobre 2020. Ses conditions de détention ont été très dures. Avant son procès, elle a été 7 mois à l'isolement. Elle devait dormir par terre, sans lit ni oreiller, et était surveillée 24 heures sur 24. Naïd Taravi a été condamnée à plus de 10 ans de prison en août 2021 pour appartenance à un groupe illégal et propagande contre le régime. Comme d'autres binationaux, internationaux. Naïd Tarawi avait été arrêté pour des raisons politiques, pour faire pression sur Berlin. Contrairement au cas de la journaliste italienne Cecilia Sala, récemment libérée par Téhéran, aucune information sur un échange de prisonniers avec Berlin n'a filtré dans le cas de Naïd Tarawi. Pascal Thibault, Berlin RFI.
D'autres étrangers sont toujours détenus par la République islamique. C'est le cas d'Olivier Grondeau. Ce Français a été arrêté il y a un peu plus de 2 ans, condamné à 5 ans de prison pour espionnage et complot contre l'Iran. Il a décidé de s'exprimer pour la première fois afin d'alerter sur son cas. Dans un document audio qui a été enregistré lors d'un appel téléphonique à ses proches, il clame son innocence et se dit victime d'un chantage politique entre la France et l'Iran. RFI 1h05 à Kiev, Volodymyr Zelensky dit avoir discuté avec Emmanuel Macron du soutien à l'Ukraine et d'un éventuel déploiement de contingents militaires étrangers dans le pays en guerre. Une idée qui fait son chemin ces derniers mois chez certains des alliés de Kiev. Selon le président ukrainien, les deux dirigeants ont aussi évoqué les investissements dans l'achat d'obus pour l'Ukraine. Et 2 semaines après la fin du lucratif transit de gaz russe via l'Ukraine, cette décision a été prise par Kiev pour limiter les revenus de Moscou. Après 3 ans de conflit, le géant gazier russe Gazprom annonce qu'il va supprimer environ 40% des postes au sein de son siège à Saint-Pétersbourg. Cela pourrait concerner entre 2500 et 4000 personnes, Anissa El-Jabri.
Dans la lettre de la vice-présidente du conseil d'administration de Gazprom, lettre rendue publique par plusieurs médias russes, sont évoqués, je cite, « des défis qui nécessitent des délais de prise de décision réduits, la nécessité, je cite encore, d'éliminer les fonctions redondantes et les processus bureaucratiques excessifs ». Pourtant, les projets immobiliers de Gazprom pour son siège à Saint-Pétersbourg n'ont pas été annulés. Une première tour avait-elle fait beaucoup parler ? Ce gratte-ciel a en effet déjà coûté à l'entreprise environ 120 milliards de roubles, environ 1 milliard d'euros au cours actuel. Ce gratte-ciel sur les rives du golfe de Finlande est au total plus cher que les tours jumelles de la société pétrolière Petronas en Malaisie et que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï. Les travaux pour une deuxième tour ont eux déjà commencé cet automne. En 2023, pourtant, Gazprom a enregistré une perte nette de près de 7 milliards de dollars, une première en plus de 20 ans. La tendance ne va pas s'améliorer. Selon des experts cités par le quotidien russe Vedomosti, la fin des livraison via l'Ukraine va amputer Gazprom d'environ 5 milliards d'euros de recettes annuelles, soit environ 6% de son chiffre d'affaires. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Le secteur pétrolier russe décidément bien en peine, puisqu'après que le département américain du Trésor a imposé ce vendredi des sanctions aux producteurs de pétrole russe, des dizaines de pétroliers sont maintenant à l'arrêt. Tous feraient partie de la flotte fantôme russe constituée dans le but de contourner les sanctions occidentales. Preuve encore que la question de l'approvisionnement en matière première et centrale dans ce conflit. Ces accusations formulées par la Russie ce lundi, Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué sans succès à l'aide de drones des infrastructures du gazoduc Turk Stream. Il s'agit de la seule conduite d'acheminement de gaz russe menant vers l'Europe. On termine cette édition avec le décès du grand photographe italien Olivero Toscani, mort à l'âge de 82 ans d'une grave et rare maladie à l'hôpital de Cesina en Toscane. Il était aussi un stratège de communication. Sa carrière internationale a été marquée par ses publicités pour la marque de vêtements Benetton, Anne Lenir.
Homme au caractère ironique et à l'âme libre, l'ancien étudiant de l'école d'arts appliqués de Zurich débute sa carrière internationale en travaillant pour des maisons de haute couture et de prestigieux magazines de mode. En 1982, il entame sa collaboration avec la marque Benetton et enchaîne les campagnes publicitaires liées à des sujets de société. De la lutte contre le racisme, le sida, l'homophobie, la mafia, la famine, à celle pour la paix. En l'an 2000, sa campagne contre la peine capitale, montrant des condamnés à mort aux États-Unis, suscite une telle controverse que Benetton interrompt leur relation qui prendra définitivement fin en 2020. Entre-temps, il suscite encore le choc avec une campagne contre l'anorexie pour la marque Nolita, dans laquelle il met en scène une jeune mannequin décharnée. Au-delà des polémiques, Olivier Toscani est amplement reconnu pour son don de briser les frontières entre l'art, l'information, la politique et la publicité afin de bousculer les consciences. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et vous pouvez retrouver ce portrait d'Olivero Toscani sur notre site rfi.fr. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous le savez, l'information continue en attendant sur notre site, d'une part, j'en parlais, mais également sur notre application Pure Radio. Le prochain journal consacré à l'actualité internationale, ce sera d'ici 50 minutes. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.